Monsieur Robitaille, bonjour.
Bonjour Louis Lacroix.
Comment allez-vous?
Ça va bien et vous?
Très bien.
Oui.
Voilà qui est réglé. Bon.
C'est au moins une affaire.
Voilà. Un pour qui ça pourrait moins bien aller s'appelle Éric Martel. Il est le président, directeur général d'Hydro-Québec. Puis là, pas sûr que le gouvernement lui fait toujours confiance.
C'est vraiment la question qu'on pose et qu'on repose depuis hier. Nous, au Journal de Montréal, on a révélé une lettre là, cette semaine ouais. où M. Martel écrivait au chef Inou et il disait au chef, êtes-vous bien sûr que le projet Apuyat, un gros projet d'éoliennes dont on parle, toi et moi, depuis plusieurs semaines, c'est une des grosses querelles de l'été. Là. C'est un projet qui serait fait avec les Inou et l'entreprise privée, Boralex, pour être plus précis. C'est une entreprise qui construit des parcs éoliens. Bien, dans cette lettre-là, M. Martel doute carrément de la
rentabilité.
Oui, la rentabilité, mais il dit qu'il y aurait des pertes énormes, puis même des justificatifs que le gouvernement met en avant pour forcer Hydro à acheter de l'électricité dont on n'a pas besoin. C'est ça que M. Martel remet en question. Il dit, ça coûterait 2 milliards. Puis en plus, il dit, on ne sait même pas si les Inou, là, que le gouvernement nous dit qu'il en profiterait énormément, vont vraiment y gagner là-dedans. Mais cette lettre-là a vraiment mis le feu aux poudres. Il y a vraiment une querelle entre le gouvernement et M. Martel. Tu sais, habituellement, le PDG d'Hydro, là, il fait pas mal ce que le gouvernement veut.
Ben oui.
Parce que le gouvernement du Québec est actionnaire. C'est normal. Ouais. Mais là, M. Martel dit, ça fera, là, les éoliennes, ça fait 10 ans qu'on est là-dedans. La vérificatrice générale dit qu'on a perdu 2,6 milliards là-dedans. C'est bien beau, là, le développement régional, mais à quel prix? À quel prix? Puis en plus, si c'est juste pour enrichir une compagnie privée, c'est ce qui serait le cas, là, selon les doutes d'Hydro. Donc, tout ça c'est le rappel que je voulais faire. Bien, hier... Nous, on a essayé de savoir si le gouvernement avait encore confiance en PDG d'Hydro parce qu'il y a des informations qui circulent selon lesquelles le gouvernement veut le démettre de ses fonctions.
Mais là, on ne peut pas faire ça à 2 mois des élections. Là.
Impossible. C'est de l'intimidation.
Si on fait ça, imagine, parce que là, tu vas nommer quelqu'un d'autre, forcément.
Le gouvernement fait circuler ça parce que c'est une façon d'intimider
bien sûr.
M. Martel pour qu'il accepte de continuer à négocier cette affaire-là avec laquelle il n'est pas d'accord. Hein? Puis avec lequel il dit « j'ai même pas toutes les informations ». Et là, hier, on a essayé avec Pierre Moreau, ministre des Ressources naturelles et de l'Énergie, d'avoir une réponse. Pas moyen d'avoir une réponse, Louis. Puis même le cabinet du premier ministre nous répondait pas sur la confiance. C'est une question claire, ça?
Ouais.
Est-ce que vous avez confiance en M. Martel? Pas de réponse. Ce matin, par contre, moi, j'ai parlé à l'entourage de M. Couillard. Écoute, quand je disais « avez-vous confiance? » Une question simple encore, en M. Martel, on me répondait « j'ai pas de commentaire là-dessus pour l'instant. » Finalement, on a pu parler à M. Couillard qui était à Dolbeau ce matin et qui a répondu ceci. Je pense qu'on a l'extrait, on peut l'écouter.
M. Martel va continuer son travail. On demande deux choses. D'abord, tout le Québec doit se rendre compte du caractère stratégique et incontournable de ce projet-là. Entendons-nous bien, on ne développera pas le nord du Québec sans que les Premières Nations obtiennent une part équitable de ce développement-là. Et la meilleure façon, plutôt que de leur donner des subventions dans leur territoire, pas ça qu'ils veulent. Ils veulent participer comme acteurs économiques. Alors, les projets d'énergie comme ça, communautaires, sont le moyen parfait de les amener à jouer un rôle actif dans le développement économique. Deuxième chose, il faut que les négociations se poursuivent. Je sais qu'elles se poursuivent.
Mais c'est parce que si tu ne deviens pas acteur économique, quand tu reçois de l'argent en vendant un produit dont on n'a pas besoin, tu comprends?
Exactement.
C'est pas devenir un acteur économique, ça.
Ben non.
Devenir un acteur économique, c'est ce qu'ils ont fait avec les mines de diamants là, dans le Nord. Là. C'est-à-dire que tu prends la communauté autochtone du coin, puis t'es fait participer à l'entreprise qui fait de l'argent. Là,
c'est
tu deviens un acteur économique.
Ou quand t'as des barrages comme la baie James, écoute, ça a aidé les CRI, ça,
exactement.
À se structurer.
Ben
puis, tu sais, les CRI, maintenant, ils ont des compagnies aériennes, Simonac.
Mais c'est pas, on n'est pas là. C'est pas du tout le même genre de projet.
C'est pas le même genre de projet. Là, c'est comme une subvention. Justement, M. Couillard, c'est pas une subvention. Mais c'est une subvention.
Ouais.
On achète l'électricité dont nous n'avons pas besoin. Et à fort prix. Et à fort prix.
J'allais
ça serait quoi? 10 ou 11 cents du kilowattheure selon ce qui circule?
J'allais dire à vil prix, mais c'est peut-être pas le bon terme. Est-ce que M. Martel, qui est issu du milieu privé,
ouais,
est en train de, comment dire, de tester les limites de ce que lui impose le fait d'être PDG d'une grande entreprise publique?
Je pense que oui. Hein? Et je trouve ça très intéressant.
Ouais.
Parce que souvent, ces gens-là, finalement, acceptent béatement là, ce que les gouvernements, ouais, demandent. Puis je trouve ça intéressant d'avoir deux légitimités, parce que le gouvernement est légitime parce qu'il est élu, c'est vrai, ouais, puis il est actionnaire d'Hydro-Québec, le seul actionnaire.
Parce que...
Donc c'est ça, c'est parfait d'un côté. Mais de l'autre, c'est bien aussi qu'on ait l'autre légitimité, la légitimité de savoir compter.
Mais non, mais c'est ça. C'est pour ça que
un
je
bon
te dis
comptable,
ça.
Un bon gestionnaire. Donc,
ben oui. Mais parce que monsieur Martel, là, lui, il a grandi chez. Il était président chez Bombardier, là, division avion d'affaires. Puis après ça, il avait travaillé pour Pratt & Whitney, Rolls-Royce, Procter & Gamble, Kraft Food, toutes des entreprises privées cotées en bourse qui doivent faire de l'argent. Ne peut pas arriver de même chez Bombardier ou chez Pratt & Whitney et dire « Ouais, finalement, on a décidé qu'on allait donner 1,5 milliard pendant 25 ans à... »
C'est ça. On va leur donner des avions, là. Puis,
ouais.
Ils n'ont pas besoin, mais on va acheter des avions pour eux. Mettons que tu es chez Bombardier. Ouais. Mais tu sais, c'est très intéressant d'avoir ces deux légitimités-là qui se confrontent. Puis je pense qu'à un moment donné... Il faut avoir un débat public là-dessus. Là. C'est une question très importante. Et on a un parti qui se positionne. La coalition Avenir Québec dit que ce projet-là, ça n'a pas de bon sens. S'il arrive au pouvoir, ils ne le feront pas. Ou au moins, ils vont avoir un débat.
Ouais.
Parce que là, on sent que le gouvernement libéral, lui, pousse. Et il y a une des raisons pour lesquelles il pousse, Louis. Il y a toutes sortes d'hypothèses qui circulent, là. Mais il y a aussi que Laurence Métotte, qui est l'ancienne mairesse de Port-Cartier,
ouais,
se présente pour le Parti libéral dans, ouais, Duplessis. Et que fait-elle actuellement, Mme Métotte? Elle est au cabinet de Pierre Arcan, Pierre Arcan est ministre responsable de la Côte-Nord.
Ouais.
Donc, elle doit pousser. Pousser pour sa région, je veux bien, mais je veux dire... Si c'est ruineux et inutile, comme l'a dit... François Legault,
ouais,
ben c'est problématique.
Exact.
Est-ce qu'on doit faire ça en catastrophe avant les élections? Là, M. Couillard, tout à l'heure dans l'entrevue, avait l'air à dire que c'est un dossier très complexe. Mmh. On espère au moins qu'il y a une entente de principe, mais alors tu vois que c'est moins solide, peut-être. Là. Il faut avoir un débat public là-dessus. Et juste en terminant, une petite chose drôle que j'ai ressorti,
ouais,
des boulamites.
Oui, donc.
Ben, c'est pas des boulamites très loin. C'est que, imagine-toi donc, M. Moreau qui veut même pas appuyer ouvertement ou donner une entrevue pour dire oui, je réitère ma confiance en Éric Martel, PDG d'Hydro, aujourd'hui. Écoutons ce qu'il disait il y a quelques mois lorsque les oppositions posaient des questions sur le salaire d'Éric Martel. Sa rémunération totale s'était appréciée de 26 % en 2017. Elle était rendue à 815 000. Là, il y avait à l'intérieur du Parti québécois qui disait « Coudon, vous graissez votre gang avant de vous en aller, c'est ça? »
La moyenne des sociétés américaines qui ont un chiffre d'affaires comparable à Hydro-Québec, 3,4 millions de dollars, Monsieur le Président.
Terminant.
Lorsqu'on veut avoir les meilleurs, on les paie.
Lorsqu'on veut avoir les meilleurs, ouais, on les paie. Donc, c'est le meilleur.
Il est payé comme le meilleur. Il doit être le meilleur.
Ben, il doit être le meilleur, M. Ouais. Martel. Il défendait M. Moreau il y a quelques mois.
Oui, mais ben là, ils auraient un peu, l'air... un peu tata, mettons, s'il le mettait à la porte. On va aller à la pause. Puis, tout de suite. Oui, vas-y.
Juste sur les rumeurs qui circulent, c'est-à-dire que M. Martel, il ajuste ses flûtes en fonction du prochain gouvernement qui pourrait être caquiste.
Oui.
Hein? Il y a des informations. Dans les cercles libéraux, on dit que M. et Martel ont été vus ensemble dans un salon privé d'un restaurant de Montréal. La CAQ dit qu'elle n'a jamais confirmé cette information-là,
ouais,
qu'il y a eu une rencontre, mais c'était dans un cadre beaucoup plus formel, dans un bureau. Puis c'est une fausse nouvelle que de dire que c'était dans un salon privé d'un restaurant de Montréal.
Bon, alors voilà. Antoine, Québec solidaire et la révolution énergétique.
Oui, ben on parlait tout à l'heure d'une question énergétique, là, les éoliennes sur la Côte-Nord. Et je pense que l'énergie, ça va être un des débats, là, un des sujets de débat de cette campagne-là. En tout cas, ça devrait l'être, parce que c'est vrai que on a, comment dire, des virages à prendre. Ouais. Et Québec solidaire, Manon Massé donnait une entrevue au journal hier, estime qu'il y a un manque de courage des autres formations politique en matière d'énergie. PQS veut présenter une sorte de grand plan de transition énergétique. Alors, ça serait une vraie révolution. On sait qu'il aime ça, la révolution au Québec solidaire.
Oui.
Socialiste.
Voilà.
Pardon.
La
Parfois,
révolution.
Oui, la révolution. moi, je les ai déjà entendus parler, chanter même dans un cocktail de fin de conseil national. Ils chantaient l'international.
Ah oui?
Oui, au cocktail.
D'accord.
Alors, c'est la lutte finale. Mais là, la révolution, elle serait énergétique. Manon Massé dit, vous n'avez pas idée à quel point QS est le parti du 21e siècle. Alors, la révolution, on n'en a pas beaucoup de détails. On n'a pas beaucoup de détails sur cette révolution-là, mais ça toucherait l'efficacité énergétique. Moi, je me souviens d'un documentaire là, qui était de Roy Dupuis, où on voyait Roy Dupuis, entre autres, mais c'était surtout contre la Romaine, qui s'intitulait « Chercher le courant ». Bien, dans ce documentaire-là, il y avait plein d'idées sur l'efficacité énergétique. Ouais. Est-ce qu'il y en a là-dedans qui pourraient être utilisées pour réduire notre dépendance au pétrole puis faire en sorte que l'énergie soit créée sans qu'il y ait des émissions de gaz à effet de serre? Oui, on sait que la CAQ, elle dit, dès qu'on va avoir des marchés d'exportation, on va construire des nouveaux barrages. Nous sommes, nous, Québécois, des castors. Et donc, on va construire au max. Et QS dit qu'il faudrait aussi diminuer le nombre de véhicules à carburant. Alors.
Oui, mais ça, tout le monde veut le faire, là.
Mais comment?
Ben c'est ça, je sais. Ils disent pas comment. Mais ça, c'est comme... moi, j'entendais, à toutes les campagnes électorales, on entend toujours dire comment faire pour améliorer les finances publiques, faire en sorte qu'il y ait moins de chômage, etc. Puis on disait tout le temps, il faut créer de la richesse.
Oui.
OK. Faut créer de la richesse, parfait. Mais comment? Ah, ben là, créer de la richesse en abaissant le chômage. OK, parfait. Mais comment? Ben, en créant plus d'emplois. OK, mais comment? C'est à un moment donné, c'est beau d'avoir des grands principes, mais il faut avoir un plan puis dire exactement là où on s'en va. T'sais.
Ben, au Québec, c'est sûr que diminuer le nombre de véhicules à carburant, ça permettrait d'améliorer la balance commerciale parce qu'on importe, t'sais, on ne produit pas de pétrole, alors qu'évidemment, on produit beaucoup d'électricité là, depuis une semaine.
Tout à fait. Mais...
On parle de ça.
Mais quand l'un des grands experts de ça, de l'efficacité énergétique des véhicules électriques, etc., c'est Daniel Breton.
Oui.
L'ancien ministre de l'Environnement.
Qui se représente d'ailleurs pour le Parti québécois.
Dans Saint-Hyacinthe, exactement. Mm-hmm. Et qui, lui, dit que c'est une question de temps avant que les nouvelles batteries solides, en fait, là, soient mises sur le marché. Alors, on parle de quelques années, voire quelques mois. Et ça va amener justement une révolution dans le sens où non seulement les voitures ne seront plus limitées à quelques, mettons, 200, 300 kilomètres. On va pouvoir faire 500, 600, voire 700 kilomètres avec une pleine charge. Et par la suite, la charge rapide va être de 10 minutes.
Hey, 10 minutes?
Mais là, tu te rapproches de ce que font les voitures à essence, là.
Parce que gazer, c'est pas long, là.
Ben, gazer, ça prend...
Ça prenait combien de temps, toi, quand t'avais un gros véhicule, là?
Dans le temps, ben ça me prenait à peu près ça, 10 minutes. J'avais un gros camion, fait que tu mettais pour genre 160$ de gaz dedans. Là.
Hey, je viens de recevoir une réponse de Québec solidaire, que j'ai posé une question. J'ai dit, vous autres, révolution énergétique et tout ça, qu'est-ce que vous dites des éoliennes sur la Côte-Nord?
Ouais.
Puis là, ils ont cherché, puis là, ils m'ont envoyé ça, ils viennent de m'envoyer un texto. Et il me répond, donc, Québec solidaire, il faut investiguer, les affirmations d'Hydro-Québec sont sérieuses, Oui à l'éolien, évidemment, ouais. Mais pas avec des pertes financières telles qu'anticipées par Hydro-Québec.
Bon.
QS a toujours dit que les partenariats avec le privé pour développer l'éolien avec promesse d'achat à Hydro-Québec menaient à ce genre de problème. Mmh. C'est intéressant.
Ben oui.
C'est intéressant. Le Parti québécois, d'ailleurs, quand il était au pouvoir, là, il avait lancé le projet Appuyat, mais c'était ouais. Hydro-Québec Production et non Boralex qui construisait les éoliennes. Mmh.
OK. Bon, Legault boudrait-il le sommet de la francophonie? Parce que là, il va y avoir le sommet de la francophonie qui s'en vient. C'est pour le mois de novembre, si je ne m'abuse.
Alors, ça serait une des premières décisions de M. Legault. Très bonne entrevue de Jocelyne Richer de la Presse canadienne avec François Legault. Et il était placé devant un vrai problème. D'une part, il ne voulait pas dire... être présomptueux puis dire « ben oui, je vais être élu, c'est sûr, puis je vais y aller ». En même temps, la francophonie a mauvaise presse ces temps-ci. Là. C'est clair, avec ouais. toutes les dépenses de Michaël Jean qui ont été dévoilées, que ce soit l'an passé avec son 50 000 $ mm-hmm. pour 4 jours à New York au Waldorf Astoria. C'est hallucinant quand même.
Ben oui, mais t'sais? Ils sont pas conscients.
T'es secrétaire général comme ça d'une organisation internationale de pays où la majorité ou même la presque totalité des pays sont très pauvres. Puis oui, bon, tu peux peut-être aller à l'Assemblée générale de l'ONU à New York, mais pas au Waldorf Astoria.
Mais non, c'est ça,
pas,
exactement.
C'est normal que tu aies une équipe avec toi, mais voyons donc. Tout le monde débarque dans l'hôtel, un des hôtels les plus chers à New York. Voyons, c'est ridicule. En tout cas, beaucoup de choses comme ça, c'est dépenses pour, évidemment, rénover. La francophonie a mauvaise presse. Puis...
Je comprends, mais si jamais il devient premier ministre du Québec,
ouais.
c'est un incontournable, la francophonie. C'est un des seuls leviers internationaux où le Québec a une voix qui pèse autant que les autres, autant que celle des autres.
Exactement. Écoute, c'est le seul forum international. Il n'y en a pas d'autre où le Québec a un statut de gouvernement ouais. participant.
Exactement.
Donc, quelle tribune pour le Québec? Hein? Et ça ne sera pas un sommet peu important. Là. Il va y avoir l'élection du nouveau secrétaire, ou de la nouvelle plutôt, secrétaire général de la francophonie. Ça pourrait être Michaël Jean qui soit reconduite... à la tête de la francophonie, ce dont plusieurs doutent. Mais il y a aussi une ancienne ministre rwandaise là, qui,
ouais.
d'ailleurs, a critiqué récemment dans une entrevue à l'AFP la gouvernance de Mme Michaël Jean. Donc là, François Legault, c'est parce qu'il ne veut pas avoir l'air de... Il veut avoir l'air d'être critique à l'égard de cette francophonie-là qui a eu mauvaise presse, mais en même temps, il veut pas avoir l'air, comme il dit, prétentieux. Mais je pense que, comme le dit Philippe Couillard dans la même entrevue, là, puis moi, tout à l'heure, j'ai parlé à l'entourage de Philippe Couillard, on dit que c'est une gaffe d'avoir laissé entendre qu'il pourrait bouder la francophonie. Parce que, c'est comme tu l'as dit, le Québec a un statut de gouvernement participant, sa voix... pèse autant que le Canada ou le Nouveau-Brunswick aussi.
La France?
Que la France, ben oui, c'est ça. Donc, ça serait vraiment... moi, je pense que c'est évident qu'il reviendrait sur cette décision-là puis qu'il irait au sommet de la francophonie si jamais il était élu.
Et c'est en Arménie, soit dit
oui,
en passant, ce sommet en 2018. Terminons avec l'Arabie saoudite. Le Canada se cherche des alliés dans son conflit, puis ils ne sont pas faciles à trouver.
Ils ne sont pas faciles à trouver, exactement. On a fait des approches auprès de l'Allemagne et la Suède. Ces deux pays aussi qui ont en partie rompu les liens avec l'Arabie saoudite, quoique justement, j'ai fait des petites recherches sur la Suède. Là. Puis c'est en 2015 qu'ils ont comme coupé les liens avec l'Arabie saoudite. Ben, en octobre 2016, ils essayaient déjà de rétablir les liens avec la Suède. Oui. Entre autres... donc, est-ce qu'ils vont appuyer le Canada? Donc, on sait qu'en tout cas, les États-Unis n'ont pas appuyé du tout le Canada. On pense même que l'Arabie saoudite a eu une sorte de comment dire, d'appui tacite ou secret des États-Unis pour attaquer comme ça le Canada. Et là, il paraît que les médias saoudiens dépeignent vraiment un portrait très négatif du Canada, Louis. Mm-hmm. On dit que c'est un des pays qui traite le plus mal la gente féminine, imagine-toi.
Ah ben oui, mais c'est sûr.
Il y a un chroniqueur dans Globe and Mail ce matin, Doug Saunders, qui dit ben, « Peut-être que ça fait l'affaire du gouvernement Trudeau, au fond. Mm. » Parce que pourquoi on voudrait rétablir les liens avec l'Arabie saoudite? Ça pourrait être en partie pour des raisons commerciales, mais c'est quand même, on a quand même beaucoup plus de liens avec beaucoup d'autres pays dans le monde, là. Des liens commerciaux là, avec le Brésil, oui. Par exemple, c'est 3 fois plus que l'Arabie saoudite. Mais ça pourrait être aussi pour avoir l'appui de ce qu'on appelle le bloc sunnite des États arabes. Mm-hmm. Hein, la religion musulmane, il y a les sunnites, il y a les chiites. Bien, évidemment, l'Arabie saoudite est très influente dans le bloc sunnite. Et pour obtenir un siège au Conseil de sécurité des Nations unies, on sait que le gouvernement du Canada, le gouvernement Trudeau, veut retrouver ce siège-là qu'on a déjà eu, qu'on a perdu sous Harper, entre autres, justement, ouais. Parce qu'il avait perdu l'appui du bloc sunnite. En même temps, comme dit Doug Saunders, le chroniqueur du Globe, c'est pas mal symbolique, ça, le Conseil de sécurité.
Ouais.
Est-ce qu'on veut vraiment plier sur nos principes pour avoir quelque chose de symbolique comme ça? Je trouve que la question est bien intéressante.
Mm-hmm.
Bon, et c'est tout. C'est, évidemment, en relations internationales, il y a 2 grandes possibilités. Soit que tu es idéaliste, mais tu perds des appuis ou des relations commerciales. Puis, soit que tu es réaliste, tu mets entre parenthèses tes grands principes, puis tu fais des affaires sur le plan international. Ça, c'est les 2 philosophies possibles. Je pense que la philosophie des États est souvent un bon mélange des deux, le réalisme l'emportant la plupart du temps.
Mais là où c'est concrètement sur le terrain, là où ça se fait le plus sentir, c'est dans les certaines facultés de médecine, entre autres.
Oui, exactement.
Et dans certains hôpitaux où tu as des médecins résidents qui sont d'origine, en fait, qui sont financés, si on veut, par l'Arabie saoudite. Parce que leur salaire est payé par l'Arabie saoudite. Mmh. Donc, on a leur service ici comme médecins résidents dans les hôpitaux universitaires, sans avoir à défrayer un salaire pour eux. Et donc, leur formation également qui est payée. Donc, c'est de l'argent qui rentre.
Parfois, on envoie même des médecins formés ici pour pratiquer en Arabie saoudite. C'est arrivé dans certains cas.
C'est déjà arrivé.
Ils reçoivent là, c'est l'Arabie saoudite qui paye.
Oui. C'est déjà arrivé. On pense d'ailleurs à un médecin en particulier.
Oui. Neurochirurgien, je crois.
On le nommera pas parce que des Philippe Couillard qui sont neurochirurgiens, il n'y en a
pas 50. Mais attention, je tiens à dire depuis le premier jour que Philippe Couillard a quand même été ferme dans ses positions contre l'Arabie saoudite dans le cas Badawi.
Voilà.